Radio Orient présente Pluriel. Pluriel, animé par Loïc Barrière.
L'invité de Pluriel est Jean-Christophe Martin, conseiller du 11e arrondissement de Paris, secrétaire départemental adjoint de la Fédération Les Républicains de Paris. Bonsoir.
Bonsoir.
Jean-Christophe Martin, avant d'évoquer l'actualité, est-ce que vous pouvez d'abord vous présenter, nous raconter votre parcours à la fois personnel et politique ?
Bien sûr, donc avant toute chose, donc j'ai 35 ans, je fais partie des jeunes élus de la dernière promotion, nous dirons, électorale de juin 2020. Ce qu'il faut savoir, c'est que je suis un Parisien d'adoption. Je suis né à Toulouse et ça fait maintenant 12 ans que je suis installé à Paris. Je suis venu, comme beaucoup de Parisiens, pour le travail. Je suis un ingénieur. Je travaille actuellement, depuis une dizaine d'années, dans l'audit financier. Politiquement parlant, donc je suis entré en politique en 2012 par ce qu'on peut appeler la petite porte. J'ai été avant tout un militant comme les autres et je le suis resté. Et je suis un fruit de la méritocratie militante. J'ai commencé militant, je vous l'ai dit. J'ai été responsabilisé aux directions de campagne depuis 2013. Je suis devenu cadre local chez les Républicains en 2016. Et puis, depuis juin dernier, donc je suis, comme vous l'avez rappelé, le conseiller du 11e arrondissement. J'ai été élu donc sur les listes de Rachida Dati. Et j'ai pris des responsabilités à la Fédération des Républicains de Paris. Et en parallèle de tout ça, de mon métier, de ma vie de famille et de ma vie politique, je suis aussi auteur. J'ai publié quelques livres sur des sujets assez variés, comme les mathématiques médicales. Ça, c'est mon côté ingénieur, ou sur la politique, ou plus récemment sur l'Europe.
La crise sanitaire a plongé 1 million de personnes supplémentaires dans la pauvreté. Il y a 10 millions de pauvres en France, avec aussi ces dizaines de milliers d'étudiants qui ont besoin d'aide alimentaire. On le voit tous les soirs à Paris. Qu'est-ce que vous attendez des pouvoirs publics pour faire face à l'augmentation de cette pauvreté ?
Ce dont on a besoin, c'est d'une véritable stratégie contre la pauvreté, contre la précarité qui, vous l'avez rappelé, se développe à une vitesse qui est particulièrement alarmante. Au niveau des Républicains, nous avons fait un certain nombre de propositions à l'Assemblée, notamment grâce à Brigitte Kuster, qui a interpellé plusieurs fois le gouvernement sur son plan pauvreté, qui n'est clairement pas à la hauteur et qui n'a pas les moyens de ses ambitions. Il se passe des choses très concrètes au niveau de la région, notamment à destination des jeunes et des étudiants qui souffrent énormément de cette situation sanitaire qui n'en finit plus, où la région a mis en place des partenariats avec les groupes hôteliers pour les étudiants qui n'arrivent plus à se loger, et c'est un vrai sujet, notamment à Paris. La région a mis en place des consultations de soutien psychologique gratuites, énormément de consultations. Pour avoir été étudiant il n'y a pas si longtemps, on peut comprendre le désarroi de toute une jeunesse qui se retrouve du jour au lendemain sans perspective, totalement isolée, loin de chez eux. Ce fut mon cas. J'ai fait mes études à 700 km de chez moi, j'avais pas de famille. Quand je suis arrivé, je n'avais pas d'amis non plus, je connaissais personne. Donc, c'est une situation extrêmement difficile et je pense que la région Île-de-France a vraiment saisi l'ampleur du problème. Et au niveau de la ville de Paris, donc Je sais que le groupe Changer Paris, auquel j'appartiens, et Rachida Dati, en premier lieu, feront des propositions extrêmement concrètes et factuelles pour le prochain Conseil de Paris. Donc, je ne les dévoilerai pas en avance, mais nous ferons effectivement des choses très concrètes. Effectivement, vous pointez aussi dans votre question un petit sujet de méthodologie. Et clairement, nous ne pensons pas que la réponse ce soit exclusivement de signer des chèques. Et nous voulons clairement, au niveau des Républicains, une vraie stratégie de sortie définitive de la précarité et non pas juste traverser le gué. Traverser le gué, c'est un objectif de survie, c'est un objectif à court terme que nous voulons relever. Nous voulons aussi un objectif à long terme qui est de sortir durablement toute cette population fragile, défavorisée, de la précarité et du désarroi qui va avec.
Alors le 6 mars, on saura si l'Île-de-France sera entièrement ou partiellement reconfinée. 20 départements français sont actuellement sous surveillance. D'abord, est-ce que c'est une bonne idée de reconfiner certains territoires, comme les Alpes-Maritimes ou la région de Dunkerque, et pas toute la France ?
Alors, le confinement généralisé, c'est clairement un aveu d'échec. Ça signera l'échec de la politique de vaccination, l'échec de la politique de test et l'échec de toute la politique sanitaire. Le confinement, c'est vraiment l'arme ultime. On l'a vu au mois de mars dernier, donc il y a bientôt un an. Ça fait un an qu'on est dans cette situation hallucinante. Le confinement généralisé à Paris et plus largement en Île-de-France, oui, on sait qu'il est dans les pensées du gouvernement actuellement. Ce serait un aveu d'échec, et ça veut dire, en ce qui concerne l'Île-de-France, la mort d'une grande partie de l'activité économique française. Le télétravail est une solution qui a été mise en place, et les entreprises ont vraiment joué le jeu sur ce sujet, mais on ne peut pas tout faire en télétravail, on ne peut pas tout faire en confinement, et le pays ne s'en sortira pas, ne pourra pas encaisser un troisième confinement, en tout cas généralisé. Il faut vraiment explorer avant, mettre les moyens qu'il faut sur la politique de vaccination, et ils n'y sont pas, sur la politique de test, et ils n'y sont pas non plus. Et j'ai envie de vous dire, de toute façon, on a l'expérience du premier confinement qui a été plutôt bien respecté et qui a été vraiment efficace pour désengorger les hôpitaux et pour traverser cette période difficile. On a aussi l'expérience du second confinement qui n'a absolument pas été respecté à Paris. Le couvre-feu actuellement, il suffit de se pencher par la fenêtre après 18 heures, n'est absolument pas respecté. Donc annoncer des confinements, c'est pénaliser toute la population qui respecte les règles, et elle est nombreuse, pour rien en fait. J'entends les problématiques de saturation des hôpitaux, et clairement c'est un vrai sujet, mais si c'est pour annoncer un confinement et ne pas le faire respecter, ça ne sert à rien et ça va faire beaucoup plus de mal que de bien.
Alors la droite parisienne a beaucoup critiqué Anne Hidalgo qui, par la voix de son premier adjoint, avait proposé de confiner la capitale pendant 3 semaines. C'est sur le fond que vous lui faites des reproches ou bien sur la forme ?
Alors c'est un peu sur les deux. C'est avant tout Anne Hidalgo qui a annoncé « je propose un confinement pour 3 semaines ». Emmanuel Grégoire, le lendemain, n'a fait que rétro-pédaler. Donc il y a deux sujets par rapport à cette annonce qui a surpris tout le monde. D'une part, elle a été prise, et on a l'habitude avec Anne Hidalgo, elle a été prise sans concertation aucune avec qui que ce soit, sans concertation avec l'ARS, sans concertation avec le préfet, sans concertation avec les maires d'arrondissement, qui ont découvert ceci dans la presse, sans concertation avec les conseillers de Paris. Je ne parle même pas des conseillers d'arrondissement, qui ont découvert aussi ceci dans la presse. C'est pas une façon de fonctionner. Donc sur la forme, c'est une calamité, et j'ai envie de vous dire, c'est terrible, on en a l'habitude. Combien de fois avons-nous appris les décisions d'Anne Hidalgo dans la presse ? Donc ça, c'est une question de forme. Sur une question de fond, Anne Hidalgo signe par cette annonce vite démentie et qui a surpris tout le monde, elle signe l'aveu de l'échec de toute sa stratégie sanitaire à Paris. Alors elle vous dira, oui, mais c'est pas moi, c'est l'ARS. Ça aussi, on a l'habitude, c'est toujours la faute des autres avec la mairie de Paris actuellement. Mais la logistique des campagnes de vaccination, c'est la mairie de Paris. Et là-dessus, la mairie de Paris n'a pas été au rendez-vous, comme elle n'a pas été au rendez-vous sur les masques. Rappelez-vous la distribution de masques aux personnes les plus fragiles, qui ressemblaient plus à des sopalins qu'à des vrais masques efficaces contre la Covid. C'est la continuité. Sur la forme, nous n'y sommes pas. Sur le fond, nous n'y sommes pas non plus.
Jean-Christophe Martin, Valérie Pécresse demande d'intensifier les tests en milieu scolaire. Vous pensez qu'on sous-estime la contamination à l'école ?
Sur cette question, Valérie Pécresse a totalement raison. Les établissements scolaires, ce sont des lieux de brassage, bien évidemment. Vous ne pouvez pas réunir plusieurs centaines de lycéens, tout comme vous ne pouvez pas réunir plusieurs centaines de collégiens dans un même lieu, même en respectant la distanciation physique, et les différents proviseurs et les équipes éducatives ont à cœur de faire respecter les gestes barrières et la distanciation sociale. mais les lycées restent des lieux de brassage. Alors vous avez deux solutions. Soit vous fermez tout, c'est pratique, vous n'avez plus, vous éliminez le lieu de brassage. Par contre, effectivement, vous sacrifiez encore une génération. Soit vous, comme le préconise Valérie Pécresse, vous intensifiez une politique de test, vous sécurisez par la distanciation sociale les gestes barrières, vous isolez et vous accompagnez les différents lycéens qui se révéleront positifs, car il y a beaucoup de porteurs sains chez les jeunes, de moins en moins avec les variants, mais il y a quand même une grande partie de porteurs sains chez les jeunes. Donc, si vous voulez casser cette tendance, vous pratiquez une politique de test massive dans les lycées, vous isolez les porteurs du virus ou d'un de ces variants, et vous les accompagnez. Vous pouvez pas isoler un lycéen 15 jours et lui dire « reprends ensuite ton année telle quelle ». Il faut aussi qu'il y ait un accompagnement pédagogique qui se mette en place derrière, et ceci, les proviseurs et les équipes éducatives auront, je n'en doute pas, à cœur de le faire vivre.
Jean-Christophe Martin, 3 millions de Français ont reçu à ce jour une première dose de vaccin, mais ces vaccins ne sont pas français. Vous qui êtes scientifique, ingénieur, comment expliquez-vous le retard pris par les laboratoires français? On a répété qu'on était le pays de Pasteur. Est-ce qu'il faut relancer l'innovation, la recherche?
Il faut clairement relancer l'innovation et la recherche. J'ai envie de vous dire, où est passée la France des grandes découvertes? Comme vous l'avez cité, de Pasteur, de Pierre et Marie Curie, elle s'est diluée en fait, cette France. Elle s'est diluée entre une recherche publique qui manque de moyens, et c'est un vrai drame pour la recherche et pour l'innovation, de voir la recherche publique courir après les deniers et les subventions. Vous avez les grandes écoles et les universités qui restent isolées, et vous avez la recherche privée qui avance de son côté et qui répond à des objectifs du privé, ce qui est tout à fait normal. La conséquence de tout ça, c'est que la France n'a plus les atouts pour rivaliser avec le reste du monde. Et j'ai envie même de rajouter, les actuels prix Nobel français, il y en a, n'en ont que plus de mérite et de talent. Il faut clairement réfléchir à créer des synergies entre le privé, le public, l'enseignement supérieur, qui regorge de talents, et créer des synergies entre tous ces talents, justement, et penser, réfléchir à des centres d'excellence et de recherche, pourquoi pas au niveau européen. Ce serait un très très beau projet pour l'Europe, de valoriser et de créer des synergies européennes d'excellence, sur le modèle un petit peu de ce que le président Sarkozy voulait faire sur le plateau de Saclay, créer des clusters d'excellence en recherche, en innovation. C'est comme ça que l'Europe et la France en Europe arriveront à rivaliser avec la recherche mondiale.
Alors, Jean-Christophe Martin, une soixantaine de députés a déposé une proposition de loi à l'Assemblée nationale pour interdire l'écriture inclusive dans les services publics, une écriture utilisée par la mairie de Paris actuellement, mais pas par la région Île-de-France. Qu'est-ce que vous pensez de la démarche de ces députés?
C'est une démarche que je soutiens totalement. Et je rajouterai même à votre question que nos collègues du 12e arrondissement ont attaqué le règlement intérieur de leur conseil au tribunal administratif pour usage de l'écriture inclusive. Alors, pourquoi? Quel est le fond du problème de l'écriture inclusive? C'est avant tout qu'elle est excluante. Si vous avez des problèmes de vue, comme de la dyslexie notamment, si vous avez des problèmes, vous devez lire, vous commencez à perdre la vue et vous devez lire grâce à des machines, vous allez avoir de vrais sujets avec l'écriture inclusive, et vous allez être exclu de l'écriture. C'est un sujet aussi de compréhension de la langue. Pour les locuteurs non natifs de la langue française, c'est compliqué d'apprendre la langue en écriture, à dire standard, académique, et d'arriver ensuite à la lire en écriture inclusive. C'est un exercice qui demande du temps et qui demande de la compréhension. Et même pour les locuteurs, on va dire, natifs de la langue française, c'est parfois compliqué de comprendre un texte en écriture inclusive. Alors, cette écriture, c'est une lubie. Et c'est une écriture qui crée un problème là où il n'y en a pas, en fait. Je ne l'utilise pas, ce n'est pas pour autant que je respecte moins les femmes, même si j'accorde l'adjectif, dès lors qu'il y a un certain nombre d'hommes et un certain nombre de femmes, au masculin pluriel. C'est pas un, ça, je n'en respecte pas pour autant moins les femmes, au contraire. Donc je ne vois pas pourquoi on s'arc-boute à la mairie de Paris sur cette lubie de l'écriture inclusive. Et je rajouterais même qu'il y a une circulaire officielle qui proscrit l'usage de l'écriture inclusive dans les textes officiels publiés au journal officiel. Donc la mairie de Paris, là-dessus, fait un coup de com' encore. On est à l'avant-garde, on est formidable, donc on utilise l'écriture inclusive. Regardez à quel point on est formidable. Il faut revenir aux bases. On a une langue française qui est belle et qui est riche, une orthographe, respectons-les.
Jean-Christophe Martin, Anne Hidalgo fait actuellement un tour de France dans le cadre de sa pré-candidature à l'élection présidentielle. J'aimerais qu'on parle de sa gestion de la ville de Paris. On a bien compris que vous vous opposiez à sa politique. Quel bilan faites-vous de son action 7 mois après sa réélection?
Son bilan, il est simple. Hein. 7 mois après sa réélection, pas de résultat. Les rues de Paris ne sont toujours pas plus sûr. Et on peut même étendre ce bilan à la mandature qui précède. Vous sentez-vous plus en sécurité à Paris qu'avant? La réponse est non. Trouvez-vous les rues plus propres qu'avant? La réponse est non. Il y a toujours, notamment dans les quartiers populaires, toujours autant d'encombrants dans les rues, toujours autant de poubelles qui débordent, toujours autant de déchets dans les caniveaux, sans pour autant que ce soit une question de moyens et d'agents. Les agents de la ville à la propreté, je voudrais le souligner, les agents de la ville à la propreté font un travail remarquable qui n'est absolument pas considéré par l'exécutif, mais ils font un travail remarquable. Ils n'ont juste pas la stratégie et le pilotage pour garder les rues de Paris propres. Trouvez-vous qu'on circule mieux à Paris? J'entends, et c'est l'avantage, on va dire, c'est l'avantage du confinement et du télétravail. J'ai une rue un petit peu passante qui est pas très loin de chez moi. J'entends en permanence les klaxons au carrefour bloqué. Peut-on se garer à Paris? La réponse est non. Puisque, évidemment, c'est un crime d'avoir une voiture pour la municipalité parisienne. Peut-on se loger à Paris? Vu le nombre de sollicitations que je reçois pour des logements, a priori, non. A-t-on bien géré la crise sanitaire à Paris? Et je vous disais tout à l'heure, la réponse est non. La logistique des centres n'est pas là, les masques en papier sopalin étaient une véritable blague. Anne Hidalgo n'a pas de bilan. Elle a un bilan totalement négatif, elle ne se montre pas à la hauteur des enjeux à Paris, elle n'en sera évidemment pas capable au niveau de la France.
Alors parlons de l'élection présidentielle. Vous êtes un responsable local des Républicains à Paris. La droite aujourd'hui est sans candidat. Un peu pareil à gauche. On parle de Valérie Pécresse, Bruno Retailleau, de Xavier Bertrand. Mais il n'y a pas d'effervescence autour de l'un ou l'autre de ces candidats possibles. Est-ce que finalement Emmanuel Macron n'est pas le meilleur candidat de la droite aujourd'hui?
Alors cette question est une question plutôt facile. La réponse est non. Nous sommes dans l'opposition à Emmanuel Macron. Évidemment, Emmanuel Macron ne peut pas être notre candidat. Mais plus largement, vous soulignez un point de méthode qui est très intéressant. La France, on a fini avec le temps de l'homme ou de la femme providentielle qui arrive en vue de l'élection présidentielle. C'était vrai du temps de Jacques Chirac, c'était vrai du temps de Nicolas Sarkozy, c'était vrai du temps de François Mitterrand. C'est fini l'homme providentiel ou la femme providentielle. La vision que nous avons chez les Républicains, c'est d'abord le projet et les idées pour la France. Nous trouverons l'incarnation qui correspond le mieux aux attentes des Français et à l'incarnation de ce projet. On a beaucoup de talents à droite, vous en avez cité certains, on peut en citer d'autres. On peut citer François Baroin, même s'il a déclaré ne pas vouloir être candidat, et c'est son droit et c'est éminemment respectable. On peut citer Rachida Dati, qui fait un travail formidable, non seulement à Paris, mais dans le reste de la France. On peut citer Michel Barnier, qui a fait un travail méconnu, mais très très important et très intéressant au niveau de l'Union européenne. On peut citer David Linard, le maire de Cannes. Beaucoup, beaucoup de talents à droite qui vont peser dans cette élection présidentielle et qui vont apporter leur pierre à l'édifice de cette élection présidentielle. Mais construisons d'abord ce que nous allons proposer aux Français. L'incarnation viendra dans un deuxième temps Vous l'avez souligné, il y a des échéances intermédiaires qui se rapprochent, que sont les élections régionales et départementales. Je rajouterai que nous avons une élection législative partielle à Paris, où nous présentons un très bon candidat qui est François-Marie Didier. Chaque chose en son temps. Jusqu'à fin juin, déjà occupons-nous des échelons locaux. Ensuite viendra le temps présidentiel, des idées, un projet, un programme, une incarnation.
Merci Jean-Christophe Martin. Je rappelle que vous êtes conseiller du 11e arrondissement de Paris, secrétaire départemental adjoint de la Fédération Les Républicains de Paris. Bonsoir.
Merci à vous.
C'était Pluriel, une émission hebdomadaire présentée par Loïc Barrière.